saviez-vous que vous avez de la chance? Vous ne savez pas. Ce n'est peut-être pas un terme très, très biblique, mais juste pour vous dire, tous, toutes n'ont pas cette possibilité ce matin, dans la paix, dans la liberté, de se retrouver. On a déjà entendu quelques témoignages, et il y aura bien, bien d'autres, des milliers à partager. Nous avons mis un verset. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tu peux le faire avancer? Non. Ah. Voilà. Et on avait mis donc ce verset, en fait, au départ de cette journée que Porte Ouverte organise pour se rappeler plus particulièrement qu'il y a des chrétiens ailleurs dans le monde et qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Peut-être que quelqu'un voudrait lire à haute voix le texte qui est affiché. Oui, vas-y. Merci. Donc, ce mot d'ordre, en quelque sorte, résumé en quelques mots, rien ne nous séparera, rien ne pourra nous séparer, ni rien ni personne. J'ai donc suivi les indications de Porte Ouverte pour ce message de ce matin. Le message n'est pas de moi, enfin le PowerPoint, je veux dire, n'est pas de moi, et j'ai retenu quand même le canevas qu'ils ont donné ce matin, et je construis mon message autour de ce canevas que vous avez ici même. Donc, je commence par ce plan d'ensemble. Disant que la résilience de nombreux chrétiens faisant face à une intense persécution démontre la réalité de cette promesse extraordinaire que nous venons de lire et qui nous est adressée, que même dans les pires circonstances, l'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous garder en lui. C'est vrai que nous ne sommes pas, pour presque tous parmi nous, je pense, exposés à une persécution dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que notre liberté de mouvement, notre foi même, est menacée par les systèmes politiques ou législatifs autour de nous. Et nous voulons donc découvrir un tout petit peu ce matin la réalité de la persécution des chrétiens dans le monde, et de nous sensibiliser au fait de notre devoir envers celles et ceux qui n'ont pas cette liberté que nous avons de vivre notre foi. Donc, quelques vérités. La réalité des souffrances que traversent les chrétiens. D'abord, la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. Cela nous est dit partout dans l'Écriture, et en particulier dans les textes que nous avons lus, mais les apôtres, l'apôtre Paul, mais aussi les autres, parlent tous, d'une manière ou d'autre, de la persécution, qui était une réalité dès le début de la vie chrétienne. Mais en fait, depuis bien plus longtemps, depuis Abel dans l'Ancien Testament, jusqu'à Jean, et en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui voulaient se décider pour servir Dieu. Jésus disait, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. » C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, dans Jean 15. Nous avons certainement, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'autre, connu des difficultés ou des épreuves plus ou moins difficiles, des moments sombres dans la vie, même si, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de la persécution proprement dite. Mais peu d'entre nous, sinon personne, est menacé que cette souffrance peut aller jusqu'à la mort. Mais souvenez-vous, Jacques, l'un des premiers martyrs, était l'un des trois les plus proches de Jésus et qui a été mis à mort par les autorités romaines dans les premières années de l'Église. L'opposition à Dieu et à ses enfants est donc omniprésente dans la Bible. Elle est aussi fort logiquement dans l'histoire passée et présente de l'Église. De nos jours encore, dans de nombreux pays et dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à des menaces et à des exactions semblables. Vous avez là un premier témoignage. J'ai fui parce que les membres ADF de l'organisation islamiste avaient tué mon fils. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé. Nous n'avions plus rien. Un autre terrible danger a été formulé par l'un de ces pasteurs du nord de la République démocratique du Congo qui témoignait « Le désespoir conduit des gens vers des religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection, des pouvoirs souvent occultes. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. » Donc, ces souffrances peuvent aussi les amener à douter de la présence de Dieu dans leur vie, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir leur foi. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a fatalité d'en arriver là? Un deuxième témoignage. La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. C'est ce que des chrétiens dans ces pays où la persécution sévit rencontrent très, très fréquemment. La deuxième partie donc, de ce plan nous parle de rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous l'avons déjà dit que la Bible affirme que l'amour de Dieu repose sur nous même dans les pires souffrances et la persécution. Et nous avons lu ce passage important dans Romains 8, dans les versets 35 à 39, et qui se termine par « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Mais il y a la promesse et il y a la réalité. Et nous savons que souvent, nous ne pouvons pas réconcilier immédiatement notre présent de souffrance, de deuil, de difficulté avec la promesse de la présence de Jésus. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu sait, fait et pourquoi et dans quel but. Mais nous avons la promesse que rien ne peut nous séparer de son amour. Un troisième témoignage. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Donc, si la réalité de la souffrance est évidente dans le monde, elle l'était hier, elle l'est aujourd'hui, ce qui est évident aussi, c'est qu'il y a victoire sur l'épreuve. Ça ne se passe pas toujours de la même façon. Encore une fois, dans Romains 8, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et on pourrait dire, mais c'est paradoxal, parce que comme un pasteur nigérian, ça m'a frappé cette phrase qu'il avait dite. Il a dit, « Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. » Imaginez un instant que ce matin, vous venez à l'église, et dès votre sortie, on vous attend en dehors des autorités malveillantes qui vont vous reprocher de ce que vous faites et que vous risquez la prison et peut-être la déportation ou même la mort. Un aller simple pour aller à l'église. Vous pouvez imaginer cela. Mais le triomphe du Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort sur la croix. L'essence de la victoire n'est donc pas d'échapper ou d'éliminer la persécution, mais de rester fidèle dans la souffrance, et je dirais même dans toutes les souffrances. Une réalité, c'est que Jésus est à côté de celui qui est dans la souffrance, qui souffre pour lui. Vous rappelez le livre de Daniel, au chapitre 3, quand il est question des trois amis de Daniel qui ont été sommés de se prosterner devant l'image de ce roi Nebuchadnezzar qui s'est pratiquement fait diviniser et que ces trois amis de Daniel ne pouvaient pas être d'accord de s'agenouiller devant une statue. Et ce qui leur a causé une mort atroce dans la fournaise qui était préparée pour cela. Et voilà qu'ils sont jetés dedans, et le roi, fou furieux, constate qu'avec eux se trouve un quatrième homme dans la fournaise qui, selon ses propres termes, ressemble à un fils des dieux. Dieu les a délivrés miraculeusement. Environ 6 siècles plus tard, le diacre Chrétienne est lapidé à cause de sa foi et s'exclame peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Le point commun entre les deux, Dieu est présent. De nos jours encore, donc, de nombreux chrétiens qui sont persécutés, témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec le Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Et je me rappelle personnellement d'avoir assisté à un culte où le pasteur Richard Wurmbrand avait prêché et témoigné à Paris dans l'oratoire, je me souviens. Et il nous disait, pour ceux qui ne se rappellent pas, Richard von Brandt était pendant 14 ans en prison, dans les prisons roumaines, dont 3 ans sous terre, sans jamais voir le soleil, sans jamais entendre un enfant. Ensuite, les chrétiens suédois ont pu l'acheter en quelque sorte, ont pu acheter sa libération. Mais il disait que dans ces moments terribles sous terre, dans sa cellule, il lui est arrivé de danser de joie par la présence du Saint-Esprit en lui. Et il nous disait aussi que depuis qu'il est libéré, il n'avait plus connu ces moments-là. Juste pour dire que le Seigneur l'a tellement, tellement encouragé dans les pires souffrances par sa présence. Donc rien ni personne ne peut nous arracher de la promesse de vie éternelle qui est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène les chrétiens à envisager son avenir à long terme. Ils regardent au-delà de la mort et saisissent par la foi la réalité de la vie éternelle, parce qu'aucune puissance dans ce monde peut lui enlever cette certitude d'être un jour avec lui. Comme le brigand sur la croix qui s'est tourné dans les derniers instants de sa vie vers Jésus et qui reçoit la promesse qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc tous, n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie, nous pouvons avoir droit à cette certitude. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, comme il a dit, mais que Jésus est éternel. C'est Soré, un chrétien du Burkina Faso, qui a dit cela. Paul était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment. Il nous explique pourquoi. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions et que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et le troisième titre, donc, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Tout récemment, j'ai lu dans le journal La Croix une parole de l'évêque d'Arras, Monseigneur Olivier Leborne, qui a écrit dans l'Hebdo, c'était le 11 octobre dernier, « Lorsque je me trouve devant un migrant, et écoutez bien cela, lorsque je me trouve devant un migrant, le contexte était celui des migrants, j'ai en face de moi une personne qui, comme moi, a été créée à l'image de Dieu. Cela ne peut pas être sans conséquence. » Et on pourrait dire ça, bien sûr, en face d'un chrétien dans la persécution, ou même du bourreau qui persécute les chrétiens. La parole de Dieu nous rappelle aussi notre responsabilité à l'égard de nos frères et sœurs persécutés. L'amour fraternel est un des moyens au travers lesquels l'amour de Dieu se révèle. Cet amour se manifeste de façon concrète. Lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Et il dit: « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Dans Matthieu 25. Porte ouverte à justement cette mission de répondre à la faim et soif de chrétiens persécutés, de les habiller, visiter, d'aller vers eux dans des camps, de déplacer ou dans les prisons. Mais porte ouverte ne nous dispense pas de notre engagement. Et en conclusion, on pourrait dire: soyons l'expression de l'amour de Dieu auprès de ces gens-là. pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés. De même, le Seigneur, en aucune circonstance, ne nous abandonne. Même si nous allons des voies que nous n'aurions pas voulu, que nous n'avons pas choisies, mais que Dieu a choisies pour nous, et il est plus grand. Quelque chose qui nous a parlé aussi au travers de la mort de notre fils, comme vous avez eu l'occasion de l'entendre, c'était que Dieu reste Dieu au-delà de notre compréhension de sa volonté. Dieu reste Dieu. Nous allons donc trouver en Dieu le réconfort et la force à traverser les épreuves à vainqueur par sa présence aimante et par ses promesses d'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qui advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre assistance, de notre affection et des marques concrètes d'amour et d'aide dans leurs difficultés de tous les jours. La défense légale, par exemple, le plaidoyer auprès des pouvoirs publics, l'aide d'urgence alimentaire et médicale, soit un post-traumatique, fourniture de Bible et de littérature chrétienne, et ainsi de suite. Mais ce qui reste, rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne les séparera de notre amour. Mais la question se pose pour finir, et maintenant, que ferons-nous? Ou quelle est notre part pratique d'aider ces chrétiens, frères et sœurs, qui sont dans les difficultés, qui n'ont pas les privilèges qui sont les nôtres, qui ne mangeront peut-être pas à leur faim ce matin ou à midi même? Une première chose, me semble-t-il, est de nous informer, de nous mettre au courant de ce qui se passe. Ma vie a été forgée en grande partie par ces nombreuses réunions missionnaires auxquelles nous avons assisté. Quand j'étais à l'école biblique, tous les lundis soirs, on avait un missionnaire de passage, souvent un ancien élève d'ailleurs, et qui nous a témoigné en direct ce qu'il vivait sur le champ de mission. Ceci a eu comme conséquence que quand je suis sorti de l'école biblique, je savais que je ne pourrais pas m'arrêter là. Donc s'informer, nous le faisons ce matin, et Portes Ouvertes est probablement le meilleur site dans le monde pour parler de la persécution des chrétiens. Je vois très fréquemment que les masses médias de notre pays font référence à Portes Ouvertes, à ce fameux index des chrétiens persécutés pour communiquer ces vérités-là. Le PowerPoint se termine donc, vous savez donc ce fameux index des chrétiens persécutés. En rouge foncé, c'est là où c'est le plus grave, ensuite en orange et ensuite en plus clair ou en rayé. On ne le voit pas très bien sur cette carte-là. Mais si Portes Ouvertes a choisi 50 pays pour nous présenter là où la persécution est la plus féroce, ça ne veut pas dire que c'est tout. D'ailleurs, dans le livre qui donne le détail sur chaque pays, et qui est édité, je pense, chaque année, je n'ai pas vu la... Ah oui, et là aussi, le 24. Moi, j'avais le 23 entre les yeux. Il y a la description de chaque pays. Mais ils ont rajouté 26 autres pays où il y a aussi la persécution et qui figurent par moment d'ailleurs dans les 50. Donc, c'est relativement arbitraire de dire 50. On aurait pu aller à une centaine. Mais donc, s'informer, savoir ce qui se passe. Et ensuite, bien sûr, Donc, la deuxième chose est bien sûr la prière. Et il y a là plusieurs exemples de personnes tirées simplement d'un contexte où ils vivent. Je veux juste les laisser en vitesse regarder. Donc, prier pour ces témoins Oui, partout dans le monde, surtout en Afrique. Mais il y en a qui vivent des moments vraiment, vraiment très compliqués. En Soudan, par exemple, où ils vivent en même temps la guerre civile, la persécution islamiste et l'exil par des centaines de milliers de gens qui doivent se déplacer, ou au Soudan aussi, ou d'autres pays où la persécution fait rage. Une autre chose pour vous informer est de prier particulièrement, parce que la prière, si je parle d'informer, la deuxième chose, c'est de prier. Nous lisons avec ma femme tous les matins le petit rapport journalier. Vous avez cette feuille, si vous vous abonnez, que vous avez pour chaque jour du mois un très court descriptif d'une situation de persécution dans le monde qui vous permet de mieux comprendre. Mais vous avez tous ces... ils auraient pu rallonger par centaines ces situations. Oui, l'Apple, par exemple, c'est particulièrement virulent. Mais souvent, ce n'est pas l'islam de façon générale dans ces pays, mais les groupes islamistes, ces fanatiques qui ne font souvent rien de bon, mais que du destructeur, qui s'en prennent d'ailleurs pas seulement aux chrétiens, mais à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. D'ailleurs, quand ce sont des sunnites, ils vont se tourner contre les chiites, des musulmans, ou ceux qui ne sont pas aussi fanatiquement engagés comme eux. Donc, et ils ne sont pas les seuls. Ce n'est pas beaucoup mieux en Inde par les hindous ou encore par les bouddhistes ailleurs. Oui, donc, ça, c'est le résumé. Afrique unie contre la violence. Et vous avez le site, et vous pouvez aussi, comme c'est l'habitude maintenant, de photographier le QR code pour avoir accès à toutes ces informations. Donc, information, prière. Une troisième façon, c'est donner. Partout où la porte ouverte aide, ils ont besoin de moyens. Et vous avez là des indications très précises. Et nous sommes des gens les plus riches dans le monde. Nous faisons partie des 10% les plus favorisés sur un plan matériel dans le monde entier. Donc nous avons visiblement une responsabilité matérielle vis-à-vis de ceux qui ont beaucoup moins que nous. Une autre façon, c'est de signer la fameuse pétition. Vous avez, je crois, la liste qui est prête à vous en sortant. Ne la ratez pas, parce que ça a un impact sur les médias, sur les pouvoirs politiques qui vont recevoir. Ils préparent plusieurs millions de signatures à présenter. Et finalement, la présentation de portes ouvertes, oui, là je suis déjà un peu plus loin. Vous pouvez vous abonner donc aux nouvelles de portes ouvertes ou de simplement prendre contact avec le mouvement. Et la dernière chose qu'ils vous disent, c'est merci. Et je pense que le Seigneur, quelque part aussi, va vous dire merci. Non pas pour vous dire c'est votre mérite, mais votre pas d'obéissance. Et vous savez, quand vous êtes obéissant, une obéissance est toujours liée à une bénédiction. Je vous souhaite pour chacun de vous.